une niche fiscale.
C'est ça. Donc ça revient à concurrencer les missions de l'État.
C'est, en tout cas, c'est une question qui peut être posée. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que la députée socialiste Michèle Delaunay l'avait posée, cette question, au moment où on discutait du rabotement des niches fiscales. Elle avait dit, comment est-ce qu'on finance, pourquoi est-ce qu'on permet à des particuliers de financer l'école hors contrat via des fondations, alors que ce sont normalement des domaines que l'on doit défendre. On défend l'école publique. Il s'avère qu'elle n'a pas été écoutée et que même elle a changé de point de vue puisqu'elle n'a pas défendu ça par la suite. Et que le gouvernement socialiste actuel ne défend plus ces positions-là. Enfin, pourquoi ? Parce que, notamment dans le cas de l'éducation, la défense d'une école hors contrat, en dehors de l'éducation nationale, qui serait malade, inefficace, inefficiente, est quelque chose aussi que l'on entend maintenant dans les sphères socialistes, dans les sphères de la gauche.
Ça pourrait être un très bon financement pour une radio de service public. Je pense à une radio publique dans laquelle je travaille depuis pas mal d'années. Ça pourrait être une forme de financement par des fondations, par des dons.
Malheureusement, je ne suis pas sûre que les gens qui payent l'ISF vont en premier lieu financer une radio publique. Je
ah bon,
suis
ils...
pas sûre.
Ah bon.
Je pense qu'ils auront d'autres envies.
Offrez donc un cadeau à un vieux clodo. Invitez un troufion pour le réveillon. Donnez vos vieux vêtements à une grand-maman et vos jouets cassés aux petits délaissés. Pensez donc pour les fêtes à faire un petit geste. La concierge, les boueurs et puis les bonnes sœurs. Le gala de bienfaisance sur le bateau de plaisance. Le bal des années folles pour les boat people. Ma chère, je vous invite. Samedi en 8, on bridgera un peu pour les malheureux. Et tous les traînes misères des deux hémisphères nous diront grand merci, messieurs les nantis. L'essentiel dans la vie, vous l'avez compris, c'est d'être du bon côté de la charité.
Des militaires ukrainiens bloqués dans leurs casernes et sommés de rendre leurs armes.
Euronews.
Ces gardes-côtes sont sous la menace d'un millier de soldats aux uniformes qui n'ont pas d'insigne, mais dont tout indique qu'ils agissent au nom de Moscou.
2 mars 2014.
Nous sommes en Crimée et la démonstration de force de la Russie est claire. Sur le terrain, la péninsule ukrainienne semble progressivement glisser sous le contrôle russe. Au lendemain du feu vert du Parlement russe à une intervention militaire en Ukraine, Kiev a annoncé le rappel de ses réservistes et fermé son espace aérien à tout appareil non civil. Pour le Premier ministre ukrainien, Moscou a d'ores et déjà déclaré la guerre. Les pays occidentaux, eux, veulent croire à une issue diplomatique. Ils multiplient les mises en garde à Moscou. La France et le Royaume-Uni ont notamment suspendu leur participation aux préparatifs du G8 prévus en juin à Sotchi.
On continue avec vous, la Mathilde Goanec. Il y a un papier sur l'Ukraine dans le monde diplomatique, sur l'extrême droite. Je sais que vous avez travaillé sur ce domaine. On est dans l'actualité la plus chaude. On ne sait pas très bien comment les choses vont évidemment évoluer avec la présence russe en Crimée, là aujourd'hui, à l'heure où on parle. Quel est votre point de vue sur ce qui se passe, l'évolution des choses ?
C'est important de dire aujourd'hui que ce qui s'est passé à Kiev et à Maïdan, effectivement, c'est un mouvement composite où l'extrême droite a joué un rôle, notamment parce que c'est une extrême droite qui est en montée en puissance et qui a une organisation paramilitaire qui lui permet d'intervenir dans ce type d'événement.
C'est pas comme ça que les choses nous ont été présentées.
Mais néanmoins... Effectivement, non, tout à fait. Il y a eu un deux poids, deux mesures. On en a peu parlé au début. Oleg Tchanibok, qui est le leader de Svoboda, qui était un des trois leaders de l'opposition, on a très peu évoqué son orientation politique. Donc c'est une erreur, à mon avis, parce que ça fausse la suite des événements. Ce qui se passe en ce moment en Crimée, c'est quand même une région autonome, avec un statut autonome, mais qui fait partie des frontières de l'Ukraine. Donc soit on dit que les frontières, ça n'a pas d'importance, et que la Russie est dans son espace géographique de référence, et qu'elle peut aller là où bon lui semble, comme ce qu'elle a fait en Géorgie. Soit on respecte quand même un peu les frontières internationales et ce qui a été établi, en tout cas dans le cadre de l'Ukraine. Donc je suis d'accord et au courant et au fait du fait que l'Ukraine, c'est vrai, se trouve au milieu entre la Russie et une Union européenne alliée avec les États-Unis. Et l'Union européenne et les États-Unis ont des ambitions, c'est sûr, pour l'Ukraine, ont des ambitions commerciales, voudraient en faire un espace économique commun sans vouloir l'intégration. C'est là toute l'ambiguïté aussi de la position européenne et voudraient que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ce qui déplaît fortement à la Russie. Je ne pense pas que ça soit un motif suffisant pour la Russie pour décider d'envahir la Crimée et de décider comme ça, du jour au lendemain, que la Crimée redeviendra russe. Sans oublier